Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravis de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. On vous attend évidemment très nombreux au 3216 ou sur l'application RMC, rubrique direct studio. Tous vos messages seront lus par Martin Bourdin. Salut Martin.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Perico les gars, c'est avec nous. Salut Perico.
Oui, grave.
Pourquoi ?
Ça bah
vous ne savez pas, mais on en parlera.
Parce que l'actualité est très chargée.
Oui,
nous avons à la décrypter ensemble,
oui,
de façon rationnelle et responsable.
Oui, ça, je ne suis pas sûre, mais enfin, en tout cas, on décryptera l'actualité quand même. Et je vous donnerai le sommaire dans un instant. Thierry Moreau, ça va Thierry ?
Ça va très bien, face à Perico. Je pense qu'on va bien s'amuser.
Et puis, Jérôme Lavrieux, désormais propriétaire de Gîte, est avec nous. Et ça
oui.
Va, Jérôme ?
Très bien.
On va parler politique quand même. C'est un sujet que vous connaissez bien.
Un petit peu.
Bah, écoutez, ça tombe bien. Au sommaire, aujourd'hui, de nombreuses grandes villes de France qui boycottent la Coupe du Monde. Est-ce que c'est salutaire ou démago ? On vous attend bien sûr au 32-16. À midi et demi, Sandrine Rousseau sifflée ce week-end lors d'une manifestation en soutien des femmes iraniennes et mise en difficulté dans l'affaire Julien Bayou. Est-ce que c'est le début de la fin pour la députée écolo ? À 13h, pour ou contre l'abaissement des droits de succession, c'est une proposition d'Aurore Berger, la chef du groupe Renaissance à l'Assemblée. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera d'argent de poche. Combien faut-il donner à nos enfants ? Vaste question, on tentera d'y répondre avec Stéphane. Et puis à 14h, 10% des Français en couple font chambre à part. Est-ce que c'est la bonne solution pour être heureux à deux ? On attend bien sûr tous vos témoignages au 32-16.
RMC, Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec le boycott du jour. C'est celui de la Coupe du Monde au Qatar par plusieurs grandes villes de France. Lille, Bordeaux ou encore Strasbourg ont en effet décidé de ne pas installer d'écran géant ni de fan zone durant l'événement, Martin.
Avec à chaque fois les mêmes arguments avancés, que ce soit à Lille, à Strasbourg, à Reims aussi. On insiste à chaque fois sur les atteintes aux droits humains, référence évidemment aux drames qui ont eu lieu sur les chantiers des différents stades de la Coupe du Monde au Qatar. 6500 travailleurs étrangers morts d'après le quotidien britannique The Guardian. La mairie de Strasbourg parle aussi de raisons écologiques. On a un devoir d'exemplarité à l'heure où on appelle les Français à la sobriété. Voilà ce que dit la maire écolo de Strasbourg. Même discours à Bordeaux. Nancy, Rodez n'installeront pas non plus d'écran géant. Marseille, de son côté, n'en installera un que si la France va en finale. Pas pour boycotter l'événement, précise la mairie, mais parce qu'elle estime qu'il fera de toute façon trop frais. Elle veut aussi que les bars et les restaurants en profitent. À Paris, le sujet pourrait s'inviter au menu d'un conseil de Paris dans une dizaine de jours. Des élus écolos appellent la mairie à ne pas installer d'écran géant à Paris. Bref, à un mois et demi du Mondial, tout le monde se pose la question un peu partout. Est-ce qu'il faut installer ou non un écran géant ? En 2018, à l'occasion de la finale donc de la Coupe du Monde 2018, plusieurs villes estimaient qu'installer un écran géant coûtait entre 10 000 et 20 000 euros. Celui installé sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, pour la finale, avait coûté environ 100 000 euros. 40 000 euros pour installer les écrans, 60 000 pour le dispositif de sécurité autour.
Alors ce boycott, il est salutaire ou démago, Perico Legas ?
Ouf, on se dit quand est-ce que ça allait commencer à bouger ? Cette Coupe du Monde de...
Ça fait 12 ans qu'on attend.
Cette Coupe du Monde de Qatar,
c'est bien, ça arrive.
Toute proportion gardée, je ne fais pas de comparaison de point Gowin,
oui,
est aussi problématique que les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Voilà. On y est allé, on s'est écrasé.
Oui, c'est pas
Alors
pareil,
la guerre n'était pas encore arrivée,
pas
on savait que c'était un régime terrible. On est allé, on voit ce que ça a donné. Ça a été l'occasion pour le régime hitlérien de démontrer la grandeur de l'Allemagne. C'est pas ça que je mets en cause, c'est le fait qu'on y est allé en 36. Et quand on disait on peut pas aller là-bas, tout le monde disait mais non.
Oui, on peut pas revenir dessus, oui.
Voilà, le Qatar, on devrait pas y aller. C'est.
Mais c'est fait maintenant.
Oui, mais. Non.
Ça n'a rien à voir.
Ah non, les morts. Vous avez vu que il va y avoir.
Mais
de...
il fallait pas l'attribuer au Qatar dans ces cas-là.
L'air conditionné qu'on va faire. Vous avez vu que, comme pour les loger, il va falloir loger les athlètes et les invités dans les pays avoisinants.
Abu Dhabi,
voilà. Il va y avoir 160 vols par jour aller-retour pour amener tous les jours.
Oui.
Vous vous rendez compte d'un vol
vers les pays voisins.
Mais ça aurait été n'importe où,
mais à l'époque, je ne sais pas, je comprends pas comment la NUP n'est pas à l'Assemblée nationale en train de faire la grève de la faim en disant la France n'y va pas. on est aujourd'hui dans un combat écologique de défense de l'environnement. On dénonce, on sait qu'on va crever.
Il y aurait 160
vols par jour. On s'est écrasé devant le fric et en plus ils ont du gaz. Donc et on est en train de se prostituer. C'est de la prostitution. Mais on se comporte comme des putes.
Mais voilà.
On se comporte comme des putes.
Il fallait pas l'attribuer au Qatar.
Mais
c'est
je suis totalement d'accord.
Et ben voilà,
on a le droit aussi à un moment donné de dire on n'y va plus.
Bah, bien sûr.
Mais c'est irréversible. Les enjeux financiers sont tels.
Et donc ça tombe sur les footballeurs, c'est formidable.
Non.
Mais c'est bien de leur faire porter le poids d'une attribution qui n'est pas de leur fait.
Mais pourquoi les footballeurs n'ont pas dit nous on va pas jouer au Qatar?
Mais parce que c'est pas leur boulot.
Ah bon, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'engagement.
Mais ça ne
même pas s'ils sont sélectionnés. Quand ils sont allés aux Olympiques.
On verra quand ça sera terminé. L'anathème et l'opprobre que ça portera sur le football d'avoir accepté.
Excusez-moi, Perico, mais juste une petite précision comme ça, juste pour vous apprendre un petit truc. Mais vous savez que, en fait, le mondial a été attribué il y a 12 ans. Il y a 12 ans, on ne savait pas si on était qualifié. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle des qualifications.
On sait
juste un an avant si on est qualifié ou pas. Donc c'était compliqué. Et une fois que vous êtes qualifié, vous dites j'y vais pas.
Estelle,
c'est pas aux footballeurs de porter le poids.
Estelle,
je veux dire de l'ineptie.
Il n'est jamais trop tard pour sauver l'honneur. Il n'est jamais trop tard pour résister à l'ignominie. Et je vais sortir la phrase de Winston Churchill vis-à-vis de Munich. Voilà. Vous avez préféré le déshonneur et la guerre pour éviter la guerre. Vous aurez le déshonneur et la guerre. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un opprobre, un anathème qui tombera sur le football qui ne méritait pas ça.
D'accord.
J'ai trop d'estime pour le football pour considérer que les États et les organisations professionnelles ont pu accepter d'aller faire cette barbarie.
D'accord.
C'est une honte. Donc, merci aux municipalités qui ne vont pas divulguer.
Alors, tout ça pour ça.
Ah non, mais je suis. Mais là, ça veut dire qu'on a passé un cap de moralité publique dans ce monde.
Excusez-moi.
Et on est dans décadence totale.
Donc là, vous êtes
politique, morale.
Parce que vous pensez que de ne pas mettre d'écran géant, ça va changer quelque chose.
J'espère que ce n'est qu'un début.
Excuse-moi,
et je pense que cette coupe sera altérée. Par les gens qui y ont justement du bon sens, du courage et de la dignité, refuseront de se compromettre avec cette ignominie.
Le courage, c'est de pas allumer la télé, t'as raison.
D'abord, excuse-moi,
ça pourra arriver jusque-là.
Je voudrais quand même juste te dire que je t'ai pas entendu hier. Il y a par exemple le prix de l'Arc de Triomphe pour plusieurs années qui s'appelle maintenant le prix Qatar Arc de Triomphe. On t'a pas entendu là-dessus. Donc,
j'ai pas été consulté. Tu veux mon avis? Je pense qu'on n'a pas le temps.
Bref.
Tu vois, donc on va sortir. Mais si tu veux, je peux en discuter avec toi.
Évidemment que c'est un peu démago parce que je pense qu'un certain nombre de. Enfin. Démago et hypocrite. On a parlé des différents boycotts, le boycott des médias, le boycott des annonceurs, le boycott politique. Là, on est dans le boycott politique. C'est évidemment démago et hypocrite de la part d'un certain nombre de municipalités pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y en a qui se rachètent une conscience sur le dos de leurs finances. Ça leur permet de pas trop dépenser parce que quand même les collectivités locales actuellement sont un peu ric-rac. Donc si elles peuvent faire des économies là-dessus en disant qu'en plus elles soutiennent la population
qatarie. Les maires apprécieront. Les maires concernés apprécieront tes propos.
Je suis sûr de ça. Je pense
que c'est de donner bonne conscience à peu de frais, quoi.
Je vais vous donner un exemple. La mairie de Paris. J'attends de voir ce que va faire la mairie de Paris.
Elle mettra pas d'écran géant, tu verras.
Alors elle mettra pas d'écran géant. C'est marrant parce que par exemple, dans le Fonds pour Paris, qui est un fonds de mécénat pour, par exemple, refaire les fontaines de l'Arc des Champs-Élysées ou travailler l'illumination de l'Arc de Triomphe, dans ce fonds, il y a 4 millions d'euros, une très grande majorité qui vient du Qatar. C'est marrant, on n'a pas entendu Annie Hidalgo dire qu'elle voulait pas de cet argent. C'est quand même bizarre. Mmh. Quand elle était interrogée il y a quelques années à propos, quand il y a eu le premier papier du Washington Post sur les 4000 morts, parce qu'à l'époque c'était 4000 morts.
Merci d'étayer mes propos.
Laisse-moi finir.
Merci.
À l'époque on l'interroge, elle dit moi j'ai d'excellentes relations avec le président du PSG et je travaille en parfaite collaboration avec l'actionnaire qatari. Donc je pense que tous ces gens-là ont des indignations à géométrie variable.
Ça n'empêche pas.
Ben oui, non, mais je suis désolé. C'est hypocrite et démago.
Jean Merveilleux.
C'est l'hypocrisie sélective. C'est vraiment. Moi, j'ai regardé, Perico, grâce à Internet, on peut regarder longtemps en arrière. Je ne t'ai pas entendu sur les grands événements sportifs qui se sont déroulés en Chine. Je n'ai pas entendu sur les grands événements sportifs qui se sont déroulés en Russie. Hein? Je rappelle qu'à chaque fois, 8 jours après, Poutine nous a fait des trucs. Il faut toujours que ça tombe sur quelqu'un.
Mon cher Jérôme, mais si tu sors de TJ de 5 minutes, sur la Chine, j'ai dit ici la même chose. Alors écoute l'émission depuis le début, tu verras, j'ai dit plus de choses que tu ne penses.
Il faut sortir de sa campagne.
Non, mais j'interpelle Estelle, je réponds.
Mais bien sûr.
Sur quelque chose que devant vous, j'ai dit. J'ai dénoncé la Chine.
Je m'en souviens très bien.
Ouais, bah pas moi. Non, mais franchement, c'est de la démagogie à l'état pur. Déjà, c'est pas aux athlètes de subir les conséquences de ce qui a été décidé par d'autres dans d'autres lieux et qui, je le rappelle, a d'ailleurs à l'époque été fortement soutenu par la France. On parle même de déjeuner à l'Élysée.
Oui, mais je confirme tout ça. Et les accords commerciaux et financiers.
Mais tu ne vas finir par ne discuter qu'avec toi-même un jour. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, à part sur une partie des pays de l'Union Européenne, à part au Canada, Et aux États-Unis, ça dépend des mandats des présidents. On ne sait pas bien où on va les installer, où on va les faire jouer.
Oui.
Les championnats d'Europe d'athlétisme, les championnats du monde, ça va être partout pareil. Et c'est toujours sur les athlètes, la tronche des athlètes à qui on va les demander d'aller boycotter. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et la France, elle peut pas organiser tous les Jeux Olympiques, tous les championnats du monde, tous les ans, toute seule, avec ses petits bras musclés. C'est le principe. Et je rappelle que même quand il y avait le bloc soviétique, ceux qui ont appelé au boycott de l'Union soviétique, oui, je crois que c'était en 80. Ils s'en sont mordus les doigts. Parce qu'après, il y a eu le boycott des Jeux olympiques à Los Angeles qui ont eu lieu dans la foulée. Et les victimes de tout ça, c'est les athlètes. Et l'histoire démontre qu'à chaque fois qu'on organise des choses importantes dans des pays, on a un petit espoir d'ouverture, d'accord, dans ces pays.
Donc les JO sont hors sol et le sport est hors sol. Ils ne peuvent pas tenir compte de la réalité.
Merci.
Ça confirme ce que je dis.
J'imagine, Péricot, que tu n'as pas d'abonnement à une chaîne payante française et que tu ne regardes pas les Grands Prix de Formule 1 qui ont lieu dans tous ces pays-là.
Et l'exposition universelle à Dubaï, ça t'a pas joué.
Non,
ça.
Pas de problème.
Mais tout ça pose problème.
Ah, d'accord, parce que alors là, c'était l'année dernière, je t'ai pas entendu dessus. Hein.
Attendez.
Et donc, base militaire au Qatar pour rapatrier les avions, ça pose pas de problème.
Et pas qu'ici, ça fait longtemps que j'ouvre ma gueule et je me suis prononcé là-dessus. Là, nous avons un sujet qui est des municipalités qui veulent pas, voilà, d'accord.
Oui, alors ça pénalise pas que les sportifs, mais aussi des gens qui avaient envie simplement. En ce moment, il y a quand même pas trop de raisons de faire la fête. J'ai pas l'impression.
Pourquoi je disais que
tu peux payer 10 000 euros pour avoir un écran géant, pas ça va.
Pourquoi je disais que c'est une hypocrisie? C'est la première fois qu'on a une Coupe du Monde de foot ou des Jeux Olympiques en plein hiver sur notre
Les Jeux Olympiques d'hiver, c'est souvent en hiver. Enfin,
oui, on fait rarement de fan zone pour les Jeux Olympiques d'hiver à l'extérieur.
Mais ça va faire exploser la vision dans les bars.
Et donc, en fait, les mairies, si elles ne veulent pas faire à l'extérieur, c'est parce qu'elles pensent qu'il n'y aura pas grand monde qui va venir parce qu'il y a un gros risque ou qu'il fasse très froid.
Ça va faire exploser la retransmission dans les bars et ça va augmenter l'audience à la télévision. Vous verrez ce que je dis.
La faiblesse de vos arguments est pitoyable.
Taisez-vous. Dans un instant, on aura Christian Tessèdre, en fait, qui est maire de Rodez, et Rodez a interdit les écrans géants. Donc, on sera avec lui. Mais j'aimerais avoir l'avis de François, tout d'abord. François, qui est Lillois. Bonjour, François.
Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel.
Oh, mais de rien. Et merci de nous avoir appelé au 32-16. François, est-ce que vous êtes peiné de voir que votre mairie, la mairie de Lille, ne va pas mettre d'écran géant ou de fan zone pendant la Coupe du Monde?
Ben oui, tout à fait, puisqu'on n'a eu aucune consultation et aucun. Pré-information, prémisse de ce que pourrait arriver, ça nous tombe dessus comme une nouvelle classique. Et je trouve que c'est fort dommage et je trouve ça antidémocratique parce qu'on n'a pas notre chapitre dans cette décision.
Et vous y seriez allé, François?
Oui, tout à fait.
Parce qu'il fait un peu froid à Lille en novembre quand même.
Ah oui, mais même déjà maintenant, aujourd'hui, il fait déjà bien froid. Ah. Non, mais c'est l'état d'esprit, parce qu'effectivement, on peut aller dans des bars, on peut aller dans des restaurants, mais c'est le fait de pouvoir se réunir, c'est une fête populaire. On sait très bien de ce qui se passe au Qatar, ça va changer pour la suite, mais c'est cette décision qui est vraiment... qui est surprenante de nous couper d'un événement qui nous permet de nous réunir, un événement qui était plutôt joyeux. C'est du sport, peu importe que ce soit les Jeux Olympiques, Coupe du Monde de rugby. Ça fait partie un peu de cette tradition d'événements populaires où on peut se réunir. Et encore une fois, il se passe des choses pour qu'on puisse pas, y participer.
Bah merci beaucoup François de nous avoir appelé. François qui est habitant de Lille qui est l'une des villes qui va boycotter la Coupe du Monde comme la ville de Rodez. Et justement, on a le maire de Rodez, Christian Tessèdre, qui est avec nous. Bonjour Christian Tessèdre.
Bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors bon, c'est vrai que ça provoque pas mal de débats cette décision. Vous, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'annuler les fan zones? Enfin, je sais pas s'il y en avait à Rodez, mais en tout cas l'écran géant dans votre ville.
Ben écoutez, on a toujours eu des écrans géants, tout ça. Certes, la Coupe du Monde est un événement important et surtout attendu, mais il y a des valeurs sur lesquelles il faut être, de mon point de vue, intransigeant. Alors, plusieurs raisons. D'abord, on ne l'a pas fait dans l'opportunité, j'ai écouté le débat qui est intéressant avec vos intervenants, puisque vous savez, quand on fait de la commande publique, il faut passer le marché public au moins 6 mois avant. Nous, on a décidé au mois de mai qu'on ne passerait pas la commande pour mettre des écrans géants. Ce qu'on avait fait...
Mais parce que c'est le Qatar ou parce que c'est en hiver?
Non, c'est parce que c'est le Qatar.
D'accord.
C'est pas le problème d'hiver, parce que bon, l'hiver, on peut très bien à Rodez avoir de la neige, comme du beau temps, c'est jamais en novembre et décembre. Et c'est vrai qu'il y a aussi le problème de l'hiver, et vous avez raison. Mais on a décidé il y a 6 mois qu'on ne le ferait pas, alors qu'on l'a toujours fait. pour la Coupe du Monde, parce que c'est vrai que c'est des moments festifs,
bah oui,
attendus de la population, et c'est très important, et moi je ne mets pas du tout en débat le football là-dessus. Moi je suis un amateur de football, si vous m'interrogez, moi je vous donnerai la composition des équipes de France depuis 30 ans.
Bon, je ne vais pas vous interroger, mais enfin c'est très bien.
Dans les grands événements, pas tous les matchs. Si vous demandez Séville...
Oui, bon, là, on s'égare un peu là, mais...
Voilà, mais pour revenir... Il y a quand même les libertés fondamentales pour les enfants, les femmes, les hommes, et notamment les travailleurs qui sont morts pendant ce chantier.
Oui.
On ne peut pas faire...
un esclave.
Ça n'existe pas. C'est un fait réel. Après, il y a le respect de l'environnement. Climatiser un stade, dans la période actuelle, il y a une forme d'indécence. C'est un contresens, de mon point de vue, écologique et financier. Hein. Et ensuite, c'est... tout ce qui tourne autour du gaspillage énergétique. Parce que quand même...
C'est pas du gaspillage, un écran géant.
Attendez, non, mais on parle de
Qatar.
Si on le fait pas, c'est à cause du Qatar.
Les avions.
Pourquoi je parle du Qatar? Non, mais les écrans géants, ça coûte pas cher. Il faut pas quand même... C'est pas un problème d'argent. Et pourquoi c'est un gaspillage énergétique, le Qatar? Parce que le Qatar, comme tous les autres, parce que c'est exactement pareil, vous prenez tous les pays de la région, ils fonctionnent pareil. Mais eux... ils font en sorte aujourd'hui, via l'OPEP, de faire monter les prix du pétrole, de faire monter le prix. Et par conséquent, et par voie de conséquence surtout, ils font monter le prix du gaz et de l'électricité. Alors ces gens-là, eux, ils gaspillent plein pot. Ils font monter les prix et il faudrait que nous, on n'ait pas de réponse. Donc nous, on a une petite réponse.
Ça n'a pas changé grand-chose.
Non, mais ça je comprends, Christian Tessel, mais elle est super, votre ville de Rodez, mais est-ce que vous croyez vraiment que ça aura un impact sur le Qatar, le fait de ne pas mettre d'écran géant? Je ne suis pas sûre.
Ah, mais bien sûr.
En revanche, ça aura un impact sur vos administrés.
Mais ça a un impact sur notre moralité, sur notre manière de regarder l'avenir. Si on ne fait rien.
C'est pédagogique.
Et si jamais on ne fait rien, nous, on n'est pas donneurs de leçons.
Bah, on fera pour après, là, c'est fait, vous voyez.
Et au moment de la Coupe du Monde en Russie, vous aviez fait quoi?
Sur la Coupe du Monde de Russie, non, on avait mis des écrans géants, effectivement.
Ah ouais.
Mais bon.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait en Russie à l'époque?
Ah, mais c'était un grand pays démocratique qui n'avait aucune influence sur le prix du gaz et du pétrole.
Oui, c'était en 2018.
Voilà. Je vois pas le rapport, mais enfin bon. Il y a eu combien de morts dans le stade?
On n'en sait rien, il n'y a pas de statistiques.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé.
Tout à fait.
On est pleinement informé de ce qui se passe au Qatar ou en Russie, etc. Donc nous, moi, je n'ai pas de leçons à donner. En plus, moi, j'adore le foot, j'adore le rugby. On aime le sport, on refait le stade à Rodez. Et je ne suis pas là à donner le leçons à qui que ce soit. Mais pour notre moralité personnelle, moi, il me semble qu'on doit être exemplaire. Et
d'accord.
La ville de Rodez, et le club de Rodez de football est exemplaire. Moi, je vous dis un truc. Le club de football, on joue en deuxième division. On a du mal à se maintenir. Et j'estime que se maintenir en deuxième division, c'est un exploit tous les ans. Quand on
tout à fait. Voilà, on s'égare un peu, mais oui, je suis d'accord avec vous.
Il a le sens de l'honneur, c'est tout.
Parce que tous les actionnaires du club sont des actionnaires locaux.
D'accord.
On va chercher les actionnaires en Russie ou au Qatar.
Oui, vous n'êtes pas sponsorisé par le Qatar, ça serait.
On défend quand même une conception du sport qui est une conception d'éthique et d'exemplarité.
Et bien, merci.
De nos enfants.
D'accord. Eh ben merci beaucoup Christian Tessel d'avoir été avec nous et nous avoir expliqué pourquoi vous alliez boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Samuel nous appelle de Strasbourg. Strasbourg, ville écolo qui boycotte également cette Coupe du Monde. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Bonjour.
Juste une petite aparté pour Monsieur Pio Salagas. Juste pour
dire c'est Nico Salagas et Pierrick Collégas.
Oui,
ce n'est pas la même famille.
Je vous écoute.
Juste une question. Le Qatar, pour moi, ça n'a rien à voir avec M. Hitler. Hein, c'est juste un détail. Ouais. On a juste accepté aussi une Coupe du Monde.
J'ai pas dit que j'ai comparé.
Non,
j'étais très précis. Non, me reprenez pas là-dessus. J'étais très précis. J'ai dit qu'il n'y avait aucun rapport. Je disais qu'en termes d'honneur politique, il y avait une situation comparable. J'ai pas dit que le Qatar, c'était l'Allemagne nazie. Alors, vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous écoute.
Est-ce qu'en 78, quand on a fait l'Argentine avec la junte militaire et que les footballeurs français ont joué dans ce pays où on a tué des gens?
Même chose.
On n'est pas allé loin.
Non plus. Donc,
mais on est d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'inventaire des hontes françaises?
Non, c'est bon.
D'accord, voilà.
Alors,
on peut passer toute l'émission si vous voulez.
C'est une bonne chose ou pas?
Je ne vais pas se recevoir là-dessus. Merci, monsieur.
C'est une mauvaise chose parce que ça fait 12 ans qu'on sait que ça va au Qatar. On nous avait dit, ça sera au mois de juillet la Coupe du Monde, qu'on nous avait promis qu'il n'y aurait pas de problème de changement de calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a changé le calendrier pour le Qatar. On a tout changé pour le Qatar. Et qui a donné ça? Monsieur Sarkozy, Monsieur Zidane, tous ces gens-là qui étaient haut placés au football à cette époque-là, qui ont donné leur aval pour le Qatar. Donc faut pas venir maintenant nous donner des leçons en disant
ah
oh là là.
Ah non non mais on le dénonçait, il y avait déjà des gens qui le dénonçaient à l'époque, vous n'avez pas entendu.
Oui, enfin,
mais je peux vous dire que si ça jetait un malaise tout de suite. Il y a des voix qui se sont non il y a des voix non pas mollement, mais par contre ces voix-là n'ont pas eu chapitre, ils étaient pas dans les radios.
Parlez-moi d'écologie aussi il y a 12 ans.
Je vous dis que les gens qui ont protesté à l'époque contre ça, ils étaient pas sur les plateaux de télé, ils étaient pas invités.
Oui, non, c'est pas ça du tout. Non, mais il y avait moins de conscience écologique il y a 12 ans.
Sûr, il y avait quelques voix qui s'opposaient, qui disaient qu'ils prévenaient ce qui allait se passer. Ces gens-là n'étaient pas reçus.
Elles étaient extrêmement peu nombreuses. Merci Samuel, en tout cas d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Vous avez plein de messages, Martin.
Et notamment Gwendoline qui nous dit qu'on mélange tout finalement en protestant contre ces interdictions d'écran géant. Et lui, le problème, c'est pas du tout que le pays organisateur, le Qatar, soit lié à une dictature pétrolière. Voilà ce qu'elle dit exactement. Je retrouvais la ligne. Elle dit le problème, c'est que pour organiser ce mondial, on a commis des crimes. Il y a des gens qui sont morts. Il y a eu de la pollution à cause de ce mondial. Voilà pourquoi il faut plus boycotter peut-être ce mondial-là que ce qui s'est passé en Chine ou que ce qui s'est passé en Russie. Et puis à l'inverse, il y a Sylvain qui nous dit que c'est une hypocrisie monumentale, que ça permet surtout aux mairies de faire des économies. Ça leur évite des débordements. Et de toute façon, un écran géant en plein hiver, je ne suis pas sûr que ça manque à grand monde. Voilà ce que nous dit Sylvain.
Et il faudra surtout faire attention les années d'après à faire attention à l'attribution, c'est-à-dire que ce soit des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, et être extrêmement vigilant. Voilà,
notamment la candidature Arabie Saoudite, Grèce et je ne sais plus quel
pays. Si, mais ça passera pas.
C'est peine perdue, celui qui a le chèque aura toujours le dernier mot, je vous promets.
Non, je ne crois pas.
Ah, vous verrez.
Je pense qu'on
ne se couchera pas devant l'argent. Ah, on ne se couchera pas devant le fric.
Vu les sommes,
et que la mairie de Paris ne mette pas d'écran géant alors que le PSG et l'équipe de Paris, c'est fabuleux. Elle est géniale.
Franchement.
Maman Hidalgo, elle est géniale.
Voilà un point d'accord entre nous.
Tant mieux.
On est tous d'accord. Voilà un point d'accord entre nous.
On va voir justement si nos auditeurs et nos internautes sont plutôt d'accord avec Jérôme Lavrieux ou plutôt d'accord avec Perico Légas. Pas d'écran géant pendant la Coupe du Monde. Est-ce que c'est utile ou démago, Martin Bourdin?
Démago à 61%.
Bah évidemment.
Merci aux 39% qui ont gardé le sens de l'honneur.
Il me semble très très nombreux. 39%,
les héros,
beaucoup
la
trop
nation.
Nombreux. Ouais. Dans un instant, on va voir si je peux vous mettre d'accord avec Sandrine Rousseau. On se demandera si c'est le début de la fin pour Sandrine Rousseau qui a été copieusement sifflée ce week-end et puis en difficulté également dans l'affaire Julien Bayou. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, Canal 23, avec Martin Bourdin, Perico Légas, très en forme aujourd'hui. Fatigant, mais très en forme.
Il me cherche aussi.
Taisez-vous.
Bon.
On est avec Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux avec vous également au 32-16 pour agir au sifflet du jour. Et ces sifflets, ils ont été à l'attention de Sandrine Rousseau hier à Paris lors de manifestations de soutien aux femmes iraniennes. La députée Europe Écologie des Verts a été conspuée lors de sa prise de parole. Écoutez. Voilà, séquence très compliquée pour Sandrine Rousseau. Hier, Sandrine Rousseau également mise en difficulté avec l'affaire Julien Bayou. Martin Bourdin.
Ouais, une affaire qu'elle avait elle-même dévoilée. Hein, d'ailleurs, c'est Sandrine Rousseau qui avait parlé publiquement de la procédure interne qui visait celui qui était alors le chef de file des députés écolos. Elle accusait Julien Bayou de comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Voilà ce qu'elle disait. Certains députés l'avaient alors accusée de vouloir se faire justice elle-même. Je protège le combat des femmes et je continuerai. Si je dois quitter la politique pour défendre les femmes, ce serait un honneur, se justifier hier la députée Europe Écologie Les Verts. Ce n'est donc que quelques heures après avoir déclaré ça qu'elle a été huée, sifflée, mais même insultée lorsqu'elle est montée sur cette estrade lors de la manifestation de soutien aux femmes iraniennes. Certains manifestants lui reprochent en fait son adhésion aux visions communautaristes de l'islam. Pour d'autres, elle n'avait rien à faire là. Il l'accuse d'être pour le port du voile en France. Là encore, Sandrine Rousseau s'est expliquée. Ce que je défends, c'est la liberté des femmes partout, explique-t-elle. Elle a aussi réagi ce matin en expliquant que les autres élus, notamment la sénatrice Laurence Rossignol, qui l'accompagnaient ont aussi été sifflés. Mensonge, répond par tweet la sénatrice, que Sandrine Rousseau assume ses positions et ne cherche pas à nous embarquer toutes sur son bateau.
Voilà, c'est compliqué pour Sandrine Rousseau en ce moment. Alors, est-ce que c'est le début de la fin pour la députée écolo Jérôme Lavrieux?
Je l'espère.
Ah, carrément.
Ouais, je préfère que ce soit le début de la fin pour elle que la fin du début de Madame Rousseau, parce que je pense qu'on n'est pas parti malheureusement pour longtemps avec ses outrances. Et là, ce qu'elle s'est pris, c'est un boomerang en pleine figure. C'est pas juste sur sur l'affaire Bayou qu'elle a été sifflée, parce que je pense qu'ils en avaient pas grand-chose à faire. C'est sur les positions de son parti, les Verts et la NUPES, package global, sur notre vision de la laïcité. Parce que les arguments que vous venez de reprendre pour expliquer pourquoi je suis pour le choix, etc. Moi, je travaillais au Parlement quand on a rédigé la loi d'interdiction de la burqa. C'était, et les tenants de la burqa en France avaient exactement les mêmes arguments. C'est le choix, la liberté de choisir la femme de se voiler entièrement dans notre pays. Eh bien non, c'était les mêmes arguments dans les années 90 quand il s'est agi d'interdire qu'on ait des signes ostentatoires religieux dans les écoles avant d'avoir 18 ans, c'est-à-dire en maternelle, en primaire, au collège et dans les lycées. C'était les mêmes arguments. Si c'est le choix de la petite fille de le mettre, elle doit le mettre. Eh ben non, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Elle se le prend en pleine figure. C'est le même débat, c'est les mêmes arguments qui ont été défendus par le maire de Grenoble sur l'autorisation du burkini dans ces trucs. Et ça montre quoi? Que la population, elle regarde tout ça, et que quand elle peut s'exprimer directement face à un élu, eh bien elle lui fait savoir qu'elle est mécontente. Et c'est indécent. Ce qui est indécent, c'est qu'elle soit venue à cette manifestation, elle savait ce qui allait arriver. Je pense qu'elle en est au fond d'elle contente, parce que c'est dans sa stratégie de faire du buzz permanent. Résultat des courses.
Enfin là, c'est un très très mauvais buzz.
Elle était invitée des matinales ce matin.
Bon, enfin, elle aurait été invitée même sans ça.
Mais elle est dans une stratégie qui est comme ça. Il faut aller toujours de plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus vite, et elle va finir par se, comment dirais-je, victimiser sur ce problème-là. Et c'est une honte.
Mais c'est vrai, Thierry Moreau, que là, on se dit c'est les buzz de trop, quoi, finalement. Parce que c'est vrai qu'elle est toujours dans la chasse au buzz permanent, Sandrine Rousseau. Oui. On sent bien qu'elle aime ça. Mais là, c'est aller trop loin.
Alors, je ne crois pas qu'elle est morte politiquement. D'abord, parce que, Jérôme, tu devrais le savoir, on n'est jamais mort en politique. Jamais.
Je
vais parler d'un temps.
Il n'a pas dit mort.
Personnellement, qu'on peut l'être.
Je peux dire deux mots? Je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. François Mitterrand, en 59, il imagine un attentat contre lui. Juste après
l'Observatoire,
l'Observatoire, on dit derrière qu'il est mort politiquement. Oui. 22 ans plus tard, il sera président de la République réélu.
Jacques Chirac.
On n'est jamais, jamais, jamais mort politiquement.
C'est ce que
Jacques Chirac.
J'ai dit, j'espère que c'est le début de la fin plutôt que la fin du début.
J'espère qu'elle soit finie politiquement. Non, elle ne sera pas finie politiquement. Elle a trois problèmes. Sa radicalité, alors qu'on le voit régulièrement, nos auditeurs, quand ils nous appellent, ils nous disent, on aimerait bien que tous ces gens travaillent ensemble pour le bien du pays. Elle est radicale, et ça, c'est un vrai handicap. Si elle veut devenir une véritable femme politique majeure. Elle a un deuxième problème, c'est sa culture du buzz, tu l'as rappelé. Aujourd'hui, faire de la politique en 240 signes, c'est une aberration, alors qu'on a besoin de réflexion, de temps long, et de réfléchir aux problèmes qui sont complexes aujourd'hui. Et le troisième, c'est son problème à la vérité. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Elle dit tout le monde s'est fait siffler. En fait, non, c'est faux. Elle dit aussi dans la même interview ce matin pour se justifier, les femmes iraniennes, elles se battent pour s'habiller comme elles veulent. Non, Sandrine Rousseau, elles ne s'habillent pas pour s'habiller comme elles veulent. Elles ne veulent pas du voile islamique imposé par les mollahs. C'est pas tout à fait la même chose. Tant qu'elle aura un problème avec les faits et la vérité, elle ne sera pas une grande femme politique. Si elle résout ces problèmes-là, elle fera carrière et elle deviendra une grande femme politique.
Est-ce que, sans doute, pour vous, Pierre Collégas, ça a pu être juste un effet de mode, ou est-ce qu'elle va perdurer longtemps?
Alors, elle est la consécration du vide abyssal de la qualité du personnel politique. Autrefois, des personnalités de ce genre, c'est un clown, cette femme, c'est une anecdote, c'est un accident.
Non, mais parce que souvent, elle met le doigt sur des choses, vous voyez,
qui peuvent provoquer le débat. Comme beaucoup d'autres gens, pas très intelligents ou très intelligents, mais qui sont toujours dans l'excès, dans l'aberration, elle est dans la colère permanente, elle est dans la haine, elle est dans la détestation, l'anathème, elle passe sa vie à fustiger tout le monde, y compris dans son propre camp, elle veut le pouvoir pour être toute seule. Bon, le masque est en train de tomber, j'allais dire le voile est en train de tomber.
Non,
voilà. Alors, elle n'est pas morte, parce que dans son parti, il y a des gens qui trouvent formidable ce qu'elle fait. Parce que, il n'y a pas qu'elle, comme fou furieux dans cette mouvance politique. Il y a peut-être une majorité de militants, ou en tout cas une grosse partie. Donc elle sera toujours soutenue. En revanche, là, effectivement,
Julien Bayou va peut-être être réhabilité après l'enquête de Libération, quand même, ce week-end.
Mais bien sûr, ils passeront leur vie à se régler des. Mais le problème, c'est qu'elle a tué le mouvement écologique. On est en plein mouvement. On a besoin d'eux. Qu'on soit d'accord ou pas, on a besoin de cette conscience, cet allumage de conscience de ces lanceurs d'alerte. Elle a neutralisé, je pense qu'elle est payée par une grande puissance américaine. Non, je caricature. Mais je veux dire, un ennemi aurait envoyé une taupe torpiller le mouvement écologique, ils n'auraient pas trouvé
ils
mieux
que toujours fait ça.
J'espère qu'elle va s'en rendre compte.
C'est pas juste le mouvement écologique. Je pense que
et la gauche en général, et le combat sur l'environnement, et les femmes.
Mis autour de Mélenchon. Enfin, quand tu vois le tweet de Daniel Obono, député de la République.
Alors on en parlera. Alors,
il est vrai, Sandrine Rousseau.
Si on n'est pas d'accord avec Sandrine Rousseau, il n'y a qu'à manger nos morts.
Elle n'est pas tout à fait morte. Et alors, je fais allusion à ce que tu as dit, le début de la fin. La phrase de Churchill après la Lamaine. Ce n'est pas le début de la fin, mais c'est la fin du commencement. Ouais. Voilà. Là, en tout cas, elle a pris un coup dans l'aile. Et voilà. Et en tout cas, on sait aujourd'hui ce qu'elle incarne. Elle incarne une vision de revanche d'une certaine gauche qui préfère un totalitarisme confessionnel.
Le comité de salut public.
Rédempteur. Voilà. À la permanence de valeurs qu'elle estime épouvantables, c'est-à-dire le machisme et tout. Mmh. Donc, elle préfère, voilà, un voile réducteur plutôt qu'une femme libre qui pourrait avoir la tentation.
C'est pas ce qu'elle dit.
Oui, sauf qu'elle est tellement peu claire et qu'ils sont tellement peu clairs. Hein, et ils finiront par le payer.
Elle a dit l'année dernière que le voile était un embellissement.
En tout cas,
quand même,
hein.
Après, elle a dit aussi que c'était une oppression. Alors bon, oui,
en tout cas, les 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, ils le doivent aussi grâce à ces gens-là. Qui rient des Français normaux. Si. Parce qu'elle provoque une telle détestation, une telle inquiétude.
Mais pas que, il y a aussi plein de gens qui se réclament.
Là, elle s'est fait siffler par des gens qui étaient assez proches d'elle, finalement, dans ce combat. Qu'elle soit sifflée par son peuple, entre guillemets. C'est la preuve qu'à un moment donné, il y a un niveau d'exaspération de la conscience populaire qui se manifeste. Et j'espère qu'elle sera neutralisée assez vite parce que c'est un danger public.
Enfin, n'exagérez pas quand même.
Bon. Ah, c'est un danger public.
Il y a pire danger
pour la République.
Enfin, excusez-moi.
Estelle, pour la cohésion de la République.
C'est le principal danger de la République.
On a besoin de rassemblement. On a besoin de rassemblement. On a besoin de cohésion. On est dans un pays qui est meurtri. On a besoin de se rassembler. Et on a quelqu'un qui vient, qui jette de l'huile sur le feu quand la plaie est saignante.
Alors, Manu nous appelle de Réac, dans le Cantal. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RMC. Manu, vous vouliez réagir à ce débat. Est-ce que, à votre avis, c'est le début de la fin là, pour Sandrine Rousseau?
Bah, le début de la fin, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle fait partie des gens qui parlent, et puis qu'oublient ce qu'ils disent. Parce qu'il y a quelques temps, elle a quand même dit que le voile, c'était pour la femme un embellissement.
Oui.
Un embellissement pour la femme de porter le voile, comme ça. Et là, elle va dans une manifestation pour l'Iran, pour les Iraniens et tout. Donc, les femmes peuvent pas porter le voile si elles veulent pas, quoi. On n'est pas obligé de leur faire porter un voile. Ça les embellit pas, au contraire, ça les cache. Donc,
pour vous, elle aurait jamais dû aller à cette manif, en fait.
Ah non. Non, mais elle est comme certains politiques, ils vont dans des manifs, parce qu'il y a une manif, ils vont dans des manifs, mais pour se faire voir. Ben oui. Pas pour parler des choses.
Oui, mais alors je peux pas croire un instant que Sandrine Rousseau ne soutienne pas le combat des femmes iraniennes. Ça, s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est celui-là.
Mais c'est un problème de cohérence, que dit Manu est très juste.
Oui, je suis d'accord. Mais
elle
bien
n'est
sûr.
Pas cohérente.
Oui, mais elle ne les soutient pas, tu vois, c'est impossible. Bien sûr qu'elle soutient le combat des femmes iraniennes.
Sauf que si demain elle va soutenir un candidat NUPS dans une banlieue et que pour cela il faut draguer les voix. Des proches des frères musulmans, elle n'hésitera pas à dire que le voile est choisi par les femmes qui le portent en Europe.
Je peux m'interpeller, je ne suis pas sûr qu'elle défende la totalité du combat de toutes les femmes iraniennes.
Oh bah, je pense que si. Non, mais
j'aimerais bien discuter avec elle, c'est pas clair.
Mais t'es d'accord avec moi, elle changera d'avis demain matin.
Non, parce que dans les familles iraniennes qui se battent et qui souffrent et qui sont arrêtés, qui sont réprimés,
qui meurent,
il y a des gens qui seraient pas du tout d'accord avec Sandrine Rousseau si elle pouvait débattre avec elle. Pas du tout.
Et d'ailleurs, leur mère ou leur tante qui sont en exil en France l'ont sifflé hier.
Jérôme Lavrieux, est-ce que là, Sandrine Rousseau gagnerait à faire un peu plus profil bas? Parce que c'est vrai. Alors après, c'est aussi de notre faute. Enfin, franchement, il faut faire notre mea culpa parce que nous, les médias, on parle énormément de Sandrine Rousseau.
C'est une bonne cliente.
Bien sûr, c'est ce qu'on appelle.
Elle fait tout pour, Estelle. Elle fait tout pour.
Non, mais peut-être, mais on n'est pas obligé de suivre non plus. Ah. C'est-à-dire que nous, on suit aussi parce que quand elle parle du barbecue, ça nous fait marrer. C'est un bon débat. En fait, elle nous donne. Et ça, il faut le dire, du grain à moudre. Donc nous aussi, on rentre dans son jeu. Mais si on l'invite, parce que c'est une bonne cliente.
Mais et puis si elle le fait,
c'est parce qu'elle sait. On pourrait inviter Yannick Jadot, mais on s'en mettrait un peu plus.
Bah oui, ça, je voudrais pas être le mec qui fait l'interview ou la femme qui fait l'interview à 8h30 le matin avec Yannick Jadot.
Donc on a aussi une responsabilité.
Oui, mais elle le fait sciemment. Elle le fait sciemment. Et elle est obligée, pour continuer, à pédaler de plus en plus vite. Donc elle surenchérit à chaque fois.
En fait,
Et là, quand elle y va, je pense qu'elle sait qu'elle va s'en prendre une, mais c'est qu'on va parler que d'elle.
Et pourtant,
et je pense qu'elle enfin, vise, je pense, pub. Comme Perico, comme
c'est
toi,
une très mauvaise pub.
Qu'elle vise un public.
Mais bien sûr.
Elle vise un public.
Une clientèle.
Et ce public, c'est pas moi. Elle vise un public à qui ça parle, ce genre de choses. Je vous rappelle que le principal débat de la semaine dernière, pour ceux qui regardent les réseaux sociaux, c'est de jeunes influenceuses qui disaient que c'est très chic de se voiler maintenant entièrement et de mettre une abaya pour aller dans les écoles. Je vous réfère à la note des renseignements généraux qui est sortie il y a 15 jours. C'est dans ce débat-là. C'est de dire, moi, quand on me dit « Ah, c'est une liberté pour les femmes de se voiler », non.
Elle dit l'émancipation des femmes ne passe pas par l'interdiction d'un vêtement.
Oui, et deuxième chose, c'est que là, elle est sifflée par des femmes, et ça doit quand même lui faire mal, et même et pour son image, puisqu'elle, elle se pose en défenseur du droit des femmes, etc. Être sifflée par des femmes, c'est un problème, et il y a eu aussi, après l'enquête de Libération sur Julien Bayou ce week-end, beaucoup femmes. De femmes qui sont sorties du bois, entre guillemets, et qui ne disaient rien jusque-là, et qui là ont commencé à dire des choses. Donc en fait, je suis pas du tout sûre que ce soit une bonne
Vous
séquence.
Vous savez ce qui lui arrive? Elle se zémorise. Elle est dans la surenchère. Oui, et parce qu'il a pensé, et ça a marché à un moment donné. Il allait chaque fois un degré plus dur et plus fort dans la radicalité de ses convictions. On sait comment ça a fini. Qu'elle continue comme ça on pourra s'en
parler. Et donc, dernière question, Thierry Mot, il faut qu'elle fasse profil bas là ou pas?
Alors, je pense qu'il faut qu'elle fasse profil bas, et je pense qu'à un moment, elle le fera pour, encore une fois, avoir moins de radicalité, être moins sur le
buzz.
Mais
elle ne sait pas le faire.
Mais si, tu verras. Je pense qu'elle grandira.
Elle est incapable.
C'est une catastrophe, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées. Mais je pense qu'elle va comprendre, elle va apprendre de ses erreurs pour ne pas, effectivement, avoir de bad buzz. Parce que le buzz, c'est bien, le bad buzz, c'est moins bien.
Comme Zemmour.
J'y connais rien en politique, mais je crois que tu te trompes profondément et qu'elle va entretenir et faire un peu plus, et on en reparlera dans 15 jours.
Elle a son fonds de commerce.
Si on en reparle dans 15 jours, c'est qu'elle aura continué.
Elle a un fonds de commerce. Elle a un fonds de commerce.
Parlons-en dans un an ou deux.
Si on en parle dans un an ou deux, c'est qu'elle aura fait profil bas.
Elle a un fonds de commerce qui lui demande de continuer.
Et puis il y a quand même les élections à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est vrai qu'on sentait qu'elle avait pris de l'avance.
Elle joue un jeu interne, bien sûr.
Oui, mais enfin là, Julien Bayou est un peu réhabilité quand même. Donc il faut voir comment ça va se passer ces prochains jours ou prochaines semaines. Dans un instant, il y aura Anthony Morel qui va nous parler de la nouveauté Tesla. Et cette nouveauté Tesla, c'est pas une voiture, non, c'est un robot à tout faire qu'on pourrait peut-être tous avoir chez nous. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, Anthony Morel va nous dire de quoi il s'agit. Et puis à 13h, cette question dans Estelle Midi, pour ou contre l'abaissement des droits de succession. On vous attend nombreux au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est temps d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et pour cette première de la semaine, Anthony, vous allez nous dévoiler la grande nouveauté de Tesla. Ce n'est pas une voiture, mais un robot ménager.
Oui, un robot à tout faire. Il pourra vraiment tout faire, pour le coup. Alors, il s'appelle Optimus. Optimus, pourquoi?
Pour optimal.
Non. Pour référence aux Transformers, quand même. C'est le personnage principal dans les films Transformers. Non, vous ne connaissez pas.
Non.
Ah, c'est un robot gigantesque. Normalement, celui-ci est un petit peu plus petit. Il fait 1m75. Alors, c'est vraiment, pour le décrire, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un humanoïde, vraiment, deux bras, deux jambes, métalliques, vraiment le look boîte de conserve. C'est une version vraiment très préliminaire avec un casque noir, un peu façon Daft Punk. Et donc, lors de cette démonstration, eh bien, on l'a vu porter des cartons, on l'a vu se saisir d'un arrosoir et arroser des plantes. Et c'est un petit avant-goût de ce à quoi ce robot pourra servir, puisque potentiellement il pourrait faire absolument tout.
Mais
d'abord,
genre quoi?
Alors, dans le monde de l'entreprise, il servira à porter des charges lourdes, par exemple. Ça, c'est une chose intéressante, où on pourra l'envoyer dans des zones dangereuses, faire tout ce qui est un peu ingrat, fastidieux, dangereux pour l'être humain. La machine pourra s'en occuper. Ça, c'est la première chose.
Ça
on pourra aussi
emplois.
L'avoir. Alors, ça, on va rediscuter.
Ah bon.
À la maison, on pourra s'en servir effectivement comme un majordome. On pourra lui faire faire n'importe quoi, le dîner, passer la tondeuse, aller faire les courses. Vous pourrez lui ordonner d'aller faire les courses à votre place, ce qui sera assez bizarre pour les autres clients du magasin.
Au début.
Je pense que ça va faire un
peu plusieurs, ce sera moins.
Alors, et s'il oublie un truc, qui est-ce que je vais engueuler?
Mais les robots, c'est l'avantage de la machine, c'est qu'elle se trompe quand même beaucoup moins que vous. Elle va pas se planter, sauf si vous oubliez de mettre sur quelque chose sur votre liste.
La charge mentale est encore là.
Évidemment.
Ça ne va pas.
Et alors, ça pourra aller jusqu'à Elon Musk. L'a sous-entendu assez clairement. Il pourra aussi servir pour des prestations à caractère sexuel. Voilà. Alors il a pas donné plus de détails.
Remontrez-moi la photo.
Voilà, il va falloir améliorer un petit peu le design, parce que franchement, pour l'instant,
il a inventé la poupée gonflable des années 70.
Voilà, faut fantasmer sur Terminator, quoi. Alors il faudra l'habiller. Effectivement, il faudra l'habiller, mais enfin en tout cas, ça fait partie des cas d'usage.
Un truc sexuel.
Non, mais l'habiller d'une peau.
Ah oui, voilà.
Parce que là, si vous voulez vu le look, vraiment faux. Enfin après, chacun ses goûts.
Non.
Perico a l'air conquis. Donc
Péricourt, voilà. Rien.
En tout cas, les cas d'usage, comme vous pouvez le voir, sont très très nombreux.
Oui, oui, trop nombreux peut-être.
Peut-être trop.
En tout cas, sur les premières images de ce qu'on voit, il a pas l'air, il a pas l'air d'aller très vite et tout ça. Quoi. On dirait un peu un papy, quoi.
Ouais, ouais. C'est papy, c'est plus voilà, plus papy que Kylian Mbappé, quoi. Quand on le voit, si vous le voyez faire les courses, faut pas être pressé, quoi. C'est le temps qu'il revienne, les cônes pistache chocolat, ils ont eu le temps de fondre 10 fois.
C'est embêtant.
C'est un peu embêtant. Non, mais ça va s'améliorer. Encore une fois, c'est une version préliminaire. La version finale arrivera d'ici 3 à 5 ans. C'est ce que nous dit Elon Musk, qui est en général assez optimiste sur ses calendriers. Donc, faut plutôt compter 10 ans.
Il faire une fusée aussi.
Alors, il veut aussi, il fait des fusées. SpaceX, ça fonctionne. Hein. Ça y a pas de soucis.
Hyperloop, ça fonctionne.
Non, Hyperloop, ça fonctionne moins. Effectivement, il est effectif.
Et les 35 tonnes entièrement électriques, ils sont sortis. Ils devaient sortir il y a un an.
Attendez. Alors, on peut critiquer Elon Musk. Industriellement, il produit quand même des trucs. Tesla, ça tourne. Les fusées SpaceX, elles décollent et atterrissent. C'est quand même pas rien. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu optimiste. Parfois, il s'emballe un petit peu.
Non, c'est un bon communicant.
C'est un très bon communicant.
Il a fait hier.
Absolument. Et ce qui est vrai aussi, c'est que ce robot, si vous voulez, par rapport à. Vous vous souvenez de Boston Dynamics, ça vous dit quelque chose? C'est cette entreprise qui fait des robots absolument dingues, qui font des saltos arrière. Il y avait le robot chien que je vous ai apporté
dans le
plateau.
Chien,
vous vous souvenez?
Bien,
qui sont quand même ultra sophistiqués. Et là, en fait, avec ce robot un petit peu grabataire, on a l'impression de revenir 5 ans en arrière. Donc, il n'est pas encore tout à fait au point. Ce que dit Elon Musk quand même, c'est qu'il a des avantages. Son robot à lui, par exemple, il est intelligent. C'est pas juste une boîte de conserve. Il fonctionne avec les mêmes logiciels que les voitures autonomes.
Mais il va pas vite.
Oui, il va pas vite, mais il est capable de se repérer dans l'espace, de contextualiser son environnement. Et puis surtout, il coûtera moins cher aussi. Alors, moins
c'est
cher, c'est 20 000 dollars, hein, quand même. 20 000 euros. C'est un prix, on est d'accord.
Pour arroser les plantes, pour mettre l'arrosage automatique, ça fait cher.
Non, mais pour aider un petit vieux, c'est
derrière, il y a toute la logique, effectivement, des robots d'accompagnement, de robots de service. Absolument. C'est un énorme sujet. Au Japon, on commence à en voir apparaître. Et un énorme marché, absolument. Mais voilà, en tout cas, ça va mettre du temps à se mettre en place, tout ça, évidemment.
En toute modestie, Elon Musk dit également que ce robot va transformer la civilisation. Ça veut dire quoi?
Oh, bah, écoutez, c'est vrai qu'avec toute la simplicité qu'il caractérise. Alors, ce que ça veut dire, il explique que le robot, par exemple, va bouleverser notre idée de ce qu'est l'économie. C'est-à-dire qu'en gros, l'être humain va devoir se repenser. On va devoir repenser notre valeur ajoutée face à la machine. Il imagine en fait que ces robots seront produits à des dizaines de millions d'unités et qu'ils pourront en fait pratiquement faire tous les boulots, en tout cas tous les boulots manuels à notre place. Donc derrière, il y a toute la logique aussi du revenu universel.
Mais oui.
Si on n'a plus d'activité, nous, il va falloir qu'on se réinvente aussi en tant qu'être humain, notre place dans la société, quelle sera-t-elle? Donc c'est au-delà
il
de la technologie.
Peut-être animateur télé ou pas, non?
Pour l'instant, vous savez qu'au Japon, il y a eu pour la première fois, il y a une chaîne japonaise qui a embauché entre guillemets un robot journaliste, qui en tout cas présente les informations. Il n'est pas journaliste, mais il est capable de lire.
Il anime pas un débat.
Mais il fera jamais ce que vous faites.
Estelle,
évidemment, aucun robot ne vous remplacera jamais, évidemment.
Non, c'est trop mignon.
Voilà. Mais en tout cas, c'est des vrais sujets philosophiques qui vont
en
se poser.
Pour les personnes âgées.
Moi, j'aurais.
Mais mec, c'est toi, Maurice, qui arrive des courses.
Ok. Très en forme. Dans un instant, on parlera des droits de succession. Je ne vous demande pas si vous en avez bénéficié, tout ça. Mais enfin, en tout cas, on se demandera s'il faut abaisser ou non les droits de succession. C'est une proposition d'Aurore Berger, la chef de groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.